Feu de forêt dans le centre du Canada provoque l'évacuation de 17 000 personnes. La région du Manitoba a été placée sous état d'urgence par le Premier ministre. Un avion militaire doit être déployé de manière imminente pour aider les habitants des zones les plus reculées à évacuer. Les droits de douane réciproques voulus par Donald Trump ont été bloqués par un tribunal américain. Seul le Congrès peut le faire, a estimé la Cour. Elle explique que la loi d'urgence économique de 1977, utilisée par Trump pour justifier ses décrets, ne peut pas être invoquée. Et la Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. Un porte-parole a dénoncé des juges non élus qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas le pouvoir de décider comment gérer convenablement une urgence nationale. Le président américain voulait imposer une taxe de 10% sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis. Le parti d'extrême droite Chega devient la deuxième force politique au Portugal. Le parti a récolté hier 23% des voix lors des élections législatives, ce qui le place devant le parti socialiste. Le scrutin a été remporté par l'Alliance démocratique du centre-droit avec 32% des voix. Mais elle est loin de la majorité absolue, avec 91 sièges sur les 116 nécessaires. Israël a tué le chef présumé du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar. Une annonce faite hier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sa mort serait survenue lors d'une frappe israélienne le 13 mai. De son côté, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est optimiste. Il a affirmé avoir un très bon ressenti sur la possibilité de parvenir à un cessez-le-feu temporaire à Gaza et à une solution à long terme. En tennis, à Roland-Garros, les tenants du titre poursuivent leur parcours. Carlos Alcaraz et Iga Świątek se sont qualifiés avec facilité pour le troisième tour. De son côté, Jill Teichmann n'a pas réussi l'exploit. La Biennoise a été éliminée par la Biélorusse Arina Zabalenka en deux manches 6-3, 6-1. Et on termine avec la météo. Il fera bien ensoleillé aujourd'hui malgré quelques voiles de nuages élevés. Un faible vent venu de l'ouest soufflera sur le nord du plateau. Le vent sera un peu plus fort en montagne, notamment dans les hauteurs. Côté température, il fera entre 12 et 23 degrés en plaine. Demain vendredi, le temps sera ensoleillé avec de rares cumulus l'après-midi en montagne. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n'raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch. Retrouvez l'événement qui décoiffe dans le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
De nuit comme de jour, RTS Première. CQFD.
Comment se fait-il que, même les yeux fermés, on arrive très souvent à reconnaître facilement un objet qu'on nous met dans les mains? Bonjour Anne Bécher.
Bonjour.
On l'imagine bien, tout se passe au niveau du cerveau, dans une zone que des scientifiques genevois viennent d'identifier.
Oui, une région du cerveau dans laquelle se croisent les informations tactiles et visuelles et qui, plop, une capacité d'abstraction indispensable à notre adaptation au monde et à la vie en général.
Ensuite, formation pour adultes. Bonjour Laurence Bollomet.
Bonjour.
Formation pour adultes. Chez les baleines.
Et oui, parce que si la plupart des espèces animales enseignent à leur progéniture à trouver leur nourriture, à échapper aux prédateurs, à être autonomes, eh bien les baleines à bosse, pour prendre cet exemple, apprennent entre adultes et coopèrent pour améliorer notamment leur technique de chasse de petits poissons.
Et on va plonger tout à l'heure avec ces baleines et grâce à vous, Laurence. Sarah Dirène est également autour de la table. Bonjour Sarah.
Bonjour Stéphane Gabiou.
Vous allez nous faire découvrir un trésor ce matin.
Et oui, les collections de micro-organismes de l'agroscope, des algues, des bactéries pour le fromage, des micro-champignons pour l'agriculture. Toutes ces collections sont en train d'être valorisées pour l'ensemble du monde scientifique.
Et puis enfin, on va ouvrir le deuxième chapitre d'un sujet consacré à la géologie qui peut aider à faire avancer des enquêtes criminelles. Cécile Guérin, bonjour Cécile.
Bonjour Stéphane. Oui, pas seulement des crimes sordides, mais aussi des méthodes pour authentifier une vraie statuette antique en marbre ou encore identifier la grotte où se trouve Ben Laden.
Voilà pour le programme. Bonjour, bienvenue à vous.
CQFD, votre émission de science et de santé. Stéphane Gabiou.
Les scientifiques genevois ont donc identifié une région clé du cerveau où se croisent les informations tactiles et visuelles. Ça va nous permettre de nous demander pourquoi on reconnaît un objet qu'on a seulement touché et pas vu. Une étude dont les résultats sont publiés dans la revue Nature Communications, Anne Bécher.
Oui, alors fermez les yeux Stéphane, ouvrez une main s'il vous plaît.
Vraiment, je fais
vous,
ça.
Oui, vous me l'attendez, la main ouverte.
Je vous tends la main.
Faites-moi
oui.
confiance. Oui. Faites-moi confiance.
J'ai peur.
Je vais y mettre un objet et vous allez deviner ce que c'est rien qu'au toucher.
Ok. Alors,
voilà. Gardez les yeux fermés, ouais. Fermez la main, vous tâtez l'objet et vous devinez ce que c'est. Alors c'est quoi?
C'est un trombone, je pense que c'est un trombone.
Voilà,
c'est juste...
ouvrez les yeux, vérifiez.
J'ouvre les yeux. C'est un trombone.
Voilà, ça voilà. fonctionne. Sans le voir, vous êtes donc capable de reconnaître un objet grâce à votre sens du toucher.
Ouais.
Pourquoi ça marche? Eh bien, c'est parce que votre cerveau est doté d'une remarquable capacité d'abstraction. Vous touchez le truc, vous vous le représentez dans la tête et cette capacité à transférer une représentation d'un sens à un autre, du toucher à la vue ou l'inverse, hein, constitue déjà en soi, mon cher Stéphane, l'un des piliers de l'intelligence.
Je note remarquable intelligence et tout, waouh.
Mais il n'y a pas de quoi prendre le melon.
Ah bon?
Parce que sachez que ça marche également chez pas mal d'animaux et même chez certains insectes.
Ah.
C'est sur ces mécanismes-là qu'a travaillé une équipe de l'Université de Genève pour finir par identifier une zone du cerveau où se croisent les informations tactiles et visuelles.
Et dans cette équipe, il y a vous, Sami El-Boustany, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, invité donc par Anne Bécher. Vous êtes professeur assistant au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de Genève. Cette région du cerveau où se combine donc les informations qui viennent de mon sens du toucher et celles qui viennent de mon du sens de la vue, elles se trouvent où exactement? C'est devant, c'est derrière, c'est au milieu?
Alors déjà, elles se trouvent dans le cortex, donc plutôt dans la surface du cerveau, et précisément plutôt vers le milieu, précisément entre la zone du cerveau qui traite l'information visuelle et celle qui traite l'information tactile. Donc elle est très stratégiquement positionnée pour intégrer ces deux flots d'informations.
D'accord.
Mmh. Donc le cortex, hein, c'est la couche supérieure hein, du cerveau, c'est pas au centre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là où il y a toutes les circonvolutions, là, toutes les plis et les bosses.
Ouais.
C'est ça, hein, le cortex. Alors cette région jouerait un rôle central dans la généralisation sensorielle. Qu'est-ce qu'on appelle la généralisation sensorielle? À quoi elle nous sert en tant qu'humain?
Alors en fait, la généralisation sensorielle, c'est ce qui nous permet de reconnaître des positions dans l'espace ou des objets indépendamment des sens qu'on utilise pour les percevoir. Par exemple, on peut reconnaître une tasse de café dans le noir ou quand la lumière est allumée en la regardant. Mais c'est surtout important pour identifier des objets, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire aussi différents éclairages, différentes orientations. Et c'est une faculté qui est essentielle, en fait, chez nous et les animaux, pour pouvoir s'adapter à des conditions différentes et pas avoir à réapprendre et à changer de comportement chaque fois que quelque chose change légèrement. Et donc ça permet de pouvoir avoir cette communication entre les différents sens.
C'est ça, les enfants, les tout-petits acquièrent ça assez vite. Hein. C'est une question de survie, d'adaptation, de flexibilité, c'est ça?
Donc oui, ça se met en place durant le développement aussi, c'est-à-dire qu'on découvre comment les sens communiquent, on découvre son corps, par exemple à travers la vue et le toucher, on comprend quelles sont les limites de ses membres. Donc pour un enfant, c'est quelque chose de très essentiel. Et arrivé à un certain stade de développement, par exemple, si on prend un hochet, un enfant va être capable de reconnaître son hochet juste en le tâtonnant, en le regardant ou en entendant le bruit qu'il peut produire.
Mmh. Alors pour parvenir à localiser les zones du cerveau où se combinent justement les informations tactiles et visuelles, vous avez travaillé avec des souris et plus particulièrement avec leurs moustaches qui, comme on le sait, sont ultra sensibles au toucher. Il y a les moustaches du haut chez les souris et il y a les moustaches du bas. Lorsque les moustaches du haut étaient touchées, rien ne se passait hein, dans votre étude. Par contre, si ce sont les moustaches du bas qui étaient touchées, alors là, il y avait une récompense. Ça marche toujours hein, chez les souris. Pas que chez les souris, d'ailleurs. Et comme les souris ont pigé le truc, hop, au bout d'une semaine, ben, elles allaient automatiquement se faire toucher les moustaches du bas hein, pour avoir la récompense. Et tout ça, c'est un protocole d'entraînement pour activer certaines régions du cerveau. La question, c'est comment est-ce que vous êtes pris pour visualiser ces zones de ces petits cerveaux chez les souris et les cartographier surtout. C'était ça un peu le but de la manœuvre. Comment vous avez fait?
Donc en fait, on utilise différentes techniques qui nous permettent de voir le cerveau à différentes échelles. Donc on a des techniques dites de grand champ qui permettent de voir des grandes portions du cortex et visualiser l'activité sur ces régions-là. Et ça nous permet de cartographier un peu les différentes régions qui sont sensibles à la vision, au toucher ou aux deux. Et ensuite, on utilise des techniques plus précises qu'on appelle de microscopie à deux photons. Et ça nous permet de voir l'activité même de neurones individuels. Et grâce à cette technique-là, on peut identifier quels neurones font la communication précisément entre la vision et le toucher.
Tout ça, vous le voyez sur des écrans?
Tout ça, on le voit sur des écrans en utilisant des techniques de fluorescence. Donc, ces souris émettent de la fluorescence quand les neurones sont actifs. Et donc, on peut vraiment voir à l'œil nu le cerveau en action.
Donc, elles ont des petites électrodes sur la tête, c'est ça?
Non, mais une fenêtre qui nous permet de voir à travers le crâne. Donc, c'est pas des techniques invasives.
Okay.
Et on peut voir vraiment l'activité se propager à travers ces régions.
Ah, c'est génial. Alors, dans un deuxième temps, vous avez changé de stimulation. Si dans un premier temps, ça chatouillait les moustaches, stimulation tactile. Dans le deuxième temps, vous avez cherché à les stimuler visuellement. Avec quoi? Cette fois, avec une ombre qui traverse le champ de vision par le haut ou par le bas. Et là aussi, il y avait récompense par le bas, j'imagine. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté dans le comportement des souris?
Alors en fait, ces règles qu'on utilise dans ces tâches peuvent paraître un peu arbitraires, mais ce qu'elles permettent de faire, puisqu'on ne peut pas communiquer verbalement avec une souris, c'est de mesurer dans quelle mesure la souris peut faire correctement la différence entre une stimulation tactile, par exemple, du haut et du bas. Donc parfois, on récompense en haut, parfois on récompense en bas, les règles peuvent changer. Mais ce qui est très important, c'est de voir dans quelle mesure, lorsqu'on change les conditions sensorielles, la souris peut continuer à faire ce qu'elle est censée faire, sans être nécessairement perturbé par le changement de stimulation. Donc effectivement, une fois qu'on, par exemple, on récompense la moustache du haut, on enlève ces stimulations, tout ça c'est fait dans le noir total, on met un écran à la place, et on va mettre des stimulations visuelles, donc qui passent par un autre organe sensoriel, au même endroit, et on regarde si la souris va comprendre « Ah mais oui, ça c'est le haut, ça c'est le bas, je sais ce que je dois faire ». Et à notre grande surprise, en fait, elles le font très bien, elles peuvent tout de suite généraliser, et ça démontre que le cerveau est capable d'abstraire le concept de haut et de bas, sans s'arrêter sur une modalité sensorielle particulière.
Et vous avez constaté que ça active la même zone du cerveau que lors de la stimulation tactile?
Alors exactement, ça c'est une des propriétés nécessaires pour que le cerveau puisse faire ça, c'est qu'il y ait des régions qui s'activent indépendamment de la stimulation sensorielle. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des régions où on a une activation pour le haut, qu'on soit en train de stimuler la moustache ou le champ visuel. Donc ça permet de créer cette abstraction au sein du cerveau lui-même.
Et puis, il y a une troisième étape où vous avez inactivé cette zone du cerveau chez les souris. D'abord, comment? Et ensuite, qu'est-ce que ça vous a permis de constater?
Alors ça, c'est un des résultats que je trouve les plus perturbants d'une certaine manière. Donc effectivement, on utilise des techniques qui permettent de taire les neurones d'une certaine manière. On les inactive de manière soit temporaire, soit permanente. Et quand on fait ça dans cette région-là, on constate que les souris peuvent encore utiliser leur vision et leur toucher normalement, mais il n'y a plus de communication entre ces sens. Donc c'est un peu comme si vous tenez une tasse de café, encore une fois, dans votre main, et vous la regardez, et vous avez l'impression que c'est deux objets différents. Donc, il y a plus de communication entre ces sens.
Waouh! Ah oui, effectivement, c'est perturbant. Voilà. Donc, grâce à cette étude, on en sait un peu plus sur l'activité de cette région du cerveau. Samy El-Boustany, quelles sont les prochaines étapes à partir de ces résultats?
Alors, il y a plusieurs pistes qui nous intéressent. Donc, dans le cas de cette étude-là, on s'est surtout intéressé à la représentation de l'espace, en haut et en bas, et l'abstraction de l'espace. Mais on a découvert plusieurs régions qui intègrent ces informations visuelles et tactiles. Et il y en a une en particulier qu'on pense est importante pour la reconnaissance d'objets de manière invariante, de manière abstraite. Et donc on s'intéresse un peu à cette région maintenant, on est en train de révéler des nouvelles propriétés de cette région. Un autre aspect qui nous intéresse aussi, c'est l'aspect développemental, puisqu'on parlait d'enfants tout à l'heure. Effectivement, ces régions, elles doivent se mettre en place pendant le développement. Et si on a, par exemple, un strabisme ou une condition sensorielle qui change, il va falloir réaligner ces cartes. Et donc, on s'intéresse à ces mécanismes de plasticité pendant le développement.
Donc, à terme, on pourrait imaginer des applications thérapeutiques.
Alors oui, ça, c'est une possibilité que nous exploitons aussi, que nous considérons aussi. En particulier dans le cas de la réhabilitation sensorielle, si par exemple on a une restauration de la vision pour quelqu'un qui a perdu la vue pendant longtemps, maintenant qu'on connaît des voies de communication entre les différents sens, on peut imaginer des stratégies thérapeutiques dans lesquelles on utilise le toucher pour permettre de remettre en place certaines parties du circuit visuel. Donc c'est quelque chose aussi qui potentiellement aurait une portée importante.
Pourquoi reconnaît-on un objet qu'on a seulement touché sans l'avoir vu ? On a testé le trombone tout à l'heure, et comme disait Sarah, le trombone, ça aurait pu être... Voilà. Ça aurait pu être celui-ci, ouais. Ben non, en fait...
Oui, je sais pas faire le trombone.
Ah, vous avez choisi le petit trombone qui était plus simple à déplacer.
Le trombone de bureau.
Voilà, le petit trombone de bureau. Merci beaucoup, Sami El-Boustany, donc professeur assistant au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de Genève. En bref, Anne, une équipe de l'EPF de Zurich a mis au point une serviette hygiénique intelligente. C'est à découvrir dans la revue Science Advances.
Oui, puisqu'elle est capable de détecter des maladies comme le cancer des ovaires ou l'endométriose à un stade précoce, et ce grâce à une bandelette qui détecte des biomarqueurs spécifiques dans le sang menstruel. Lorsque le biomarqueur entre en contact avec un anticorps spécifique à l'une ou l'autre de ces maladies, une bande colorée apparaît. L'intensité de cette couleur varie en fonction de la concentration des anticorps. Attention, il ne s'agit pas d'un test diagnostique, mais plutôt d'un signal d'alerte, un peu comme un autotest Covid.
L'agence spatiale européenne, l'ESA, a ouvert son premier site permanent en Suisse.
En collaboration avec l'Institut Paul Scherrer, elle a mis en service hier le Centre européen d'innovation en Deep Tech spatiale à Villingen, en Argovie. Le but, améliorer la transition entre la science et le secteur privé, tout en soutenant le développement de nouvelles technologies qui peuvent être utilisées dans le domaine spatial. Bien sûr, les premières priorités sont la recherche quantique, la science des données et la recherche sur les matériaux.
Et enfin, il y a 20 000 ans déjà, des humains autour du golfe de Gascogne fabriquaient des outils en os de baleine.
C'est ce qu'on peut découvrir dans la revue Nature Communications et signé par une équipe internationale avec participation suisse. 71 des 83 outils examinés ont été fabriqués à partir d'os de grands cétacés. Il s'agit notamment d'armes de chasse, de lances et de pointes de flèches par exemple. Les os sont attribués à 6 grandes espèces de baleines qui devaient être présentes dans la région à l'époque. La baleine grise, le cachalot, le rorqual commun, la baleine bleue, la baleine franche ou, mais sans confirmation certaine pour l'instant, la baleine du Groenland qui était par là aussi. Selon les auteurs, cela permet d'avoir un nouvel aperçu de la diversité des mammifères marins d'autrefois. Ainsi, les baleines grises vivaient à cette époque plus au sud qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne Bécher. D'ailleurs, à propos baleine, on va littéralement plonger avec elle dans quelques minutes, Laurence Bolomé.
Oui, les baleines et leur grande capacité à progresser dans leur technique de chasse en se transmettant des savoir-faire d'adulte à adulte.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Cacher, hein. Ça nous fait quand même plaisir de réentendre cette chanson signée des Daft Punk avec Pharrell Williams, Get Lucky, une chanson qui était sortie en 2013. Coup d'œil sur l'horloge, il est 10h quasiment 22 minutes, c'est que nous sommes en direct en ce mercredi matin et on va s'intéresser maintenant aux baleines, les baleines et leurs compétences d'apprentissage, de transmission de savoir-faire. On sait que de nombreuses espèces inculquent des comportements à leurs petits hein, pour les rendre autonomes, nous on le fait aussi d'ailleurs les humains. Oui, mais Laurence Bolomet, vous venez de nous dire ce matin que les baleines se transfèrent des méthodes d'apprentissage également entre individus adultes.
Oui, on pourrait dire que les cétacés sont de très bons formateurs et formatrices d'adultes, à en croire Luke Randall, un biologiste de l'Institut St. Andrews en Grande-Bretagne. Il travaille également avec The Center for Social Learning and Cognitive Evolution, le centre d'apprentissage social et de l'évolution cognitive, dans une traduction approximative. Ce spécialiste des cétacés n'hésite pas à parler de culture des baleines.
Culture des baleines, qu'est-ce qu'en dit justement Luke Randall? Qu'est-ce qu'il dit déjà à propos du mot culture?
Alors déjà, il estime qu'elle n'est pas uniquement présente chez les humains, mais aussi chez certains animaux, comme les baleines qui nous intéressent aujourd'hui. Il définit la culture en parlant de l'évolution de l'apprentissage, des comportements et de la communication, mais aussi du partage d'informations entre membres d'une même communauté. Alors vous l'avez dit, c'est valable pour l'humain qui est capable d'accumuler des savoirs au fil des générations, de s'appuyer sur l'expérience pour mettre en place de nouveaux comportements afin d'être adapté aux nouvelles donnes, même si parfois on a l'impression que l'humain reproduit des schémas un peu idiots, mais c'est un autre problème. Bref, cette compétence qui augmente, c'est aussi valable chez les cétacés et d'autres animaux, comme certains singes qui ont également été étudiés.
Alors, les singes, ok. Alors, j'imagine que étudier, par contre, les baleines, ça doit être encore plus difficile justement qu'étudier des singes parce qu'elles vivent dans l'eau, elles parcourent d'immenses distances, donc il faut vraiment réussir à les suivre.
Oui, puis c'est un peu tridimensionnel, c'est-à-dire beaucoup c'est de distance horizontale, mais aussi beaucoup de profondeur. Heureusement, on a des balises et toutes sortes d'appareils d'analyse maintenant, et grâce aux observations, on a donc compris que les baleines ne transmettent leur savoir pas qu'à leurs petits. Puis alors là, j'ai envie de vous donner une petite anecdote par rapport à l'apprentissage aux petits. Ouais. Je fais une petite digression. Mais je me souviens d'une vidéo d'une maman loutre qui appuie de sa patte sur la tête de son petit pour qu'il apprenne à nager. Lui n'a qu'une envie, c'est remonter sur la terre ferme et elle recommence encore et encore. Elle appuie sur la tête. Mais revenons aux cétacés. Ouais. Ils enseignent aussi donc à leurs congénères adultes.
Et qu'est-ce qu'ils s'enseignent entre adultes, les cétacés?
Par exemple, ils se transmettent des savoir-faire et font évoluer les techniques en fonction des conditions. Les baleines à bosse, par exemple, peuvent ainsi modifier un système de chasse en fonction du poisson à disposition, ou d'autres cétacés sont en mesure de modifier leur habitude de migration en lien avec le réchauffement climatique, en restant plus longtemps dans les eaux froides de l'Antarctique, par exemple, pour faire le plein de krill. Mmh. Une dernière étude de 2024 parle d'apprentissage social, d'évolution culturelle et d'émergence de cultures locales. Les chercheurs s'appuient sur des études de cas de plus en plus sophistiquées.
Laurence, est-ce que vous auriez peut-être un exemple qui vient étayer les dires des scientifiques en matière de partage de culture?
Oui, je vous propose de de décortiquer une forme de recherche de nourriture en groupe spécifique aux baleines à bosse. Alors tout d'abord, ces cétacés n'ont pas forcément l'habitude d'être en groupe, mais elles ont compris leur intérêt de s'associer. Leur technique s'appelle le filet à bulles.
Filet à bulles.
Filet à bulles, parce qu'à l'aide de bulles qu'elles fabriquent, elles forment comme un filet autour de leur proie. La technique n'est pas nouvelle, mais elle a évolué et s'est partagée entre individus. Ainsi, en 1980, un premier cas est observé. C'est une baleine qui tape la surface de l'eau avec sa queue, ce qui crée des bulles, un peu comme de la mousse blanche qui désoriente les poissons qu'elle convoite.
Ah,
pas mal, hein?
Ouais.
Et aujourd'hui, d'autres manières de faire des bulles ont été mises en place. Les baleines à bosse détectent en effet un banc de poissons, les lançons en particulier, car elles font partie de leur alimentation. Et ces lançons se trouvent plutôt en profondeur, voire enfouis dans les fonds marins. Pas simple donc pour ces gros machins que sont les baleines de les récupérer. Alors elles mettent au point leur technique de groupe. Ça se passe comme ça, une meneuse du groupe plonge, les autres suivent, puis la première émet un son qui désarçonne les lançons, les fait quitter le sable, et puis en groupe, les baleines à bosse remontent en surface en produisant des bulles d'air avec leurs évents, on pourrait dire leurs narines, et ces bulles émises en grande quantité créent justement cette forme de filet. Les petites proies sont à nouveau désorientées, se sentent prises au piège et sont gobées.
Wow. Et donc, il y a une forme d'évolution du système, parce que vous parliez de la baleine qui, d'abord, il y avait celle qui tapait la surface avec sa queue, voilà, pour faire ses bulles. Et puis, de cette dernière étude qui montre plutôt que les baleines plongent vraiment tout fond, là aussi, pour faire des bulles.
Oui, ces systèmes sont adaptables en fonction de plusieurs paramètres. Cette chasse est étudiée depuis plusieurs décennies, hein, par l'observation des individus, surtout en surface, dans un premier temps. Mais les récentes études avec de nouvelles balises, de nouveaux systèmes de recherche subaquatique met en évidence en effet des variations de systèmes selon le type de proie, différents mouvements des différents membres du groupe prédateur, donc il y a une organisation, et puis la profondeur à laquelle descendent les baleines peut aussi varier selon les besoins. Et le fait de taper la surface existe toujours, hein, ça n'a pas été
effacé ou abandonné.
L'étude montre aussi que le fait d'être en groupe diminue l'énergie déployée par chaque individu. Alors comment calculer cette énergie, me direz-vous? Vous me le dites?
Comment calculer cette énergie, ma chère Laurence?
Merci. Eh bien, cette énergie est calculée en comptant les oscillations de la nageoire caudale, c'est-à-dire la queue, qui fait office, en d'autres termes, de rythme cardiaque. Les baleines à bosse sont capables de modifier leur technique de chasse selon les zones aussi où se trouvent les proies, selon la grandeur du groupe en action également. Et pour certaines proies, eh bien, elles ne se donnent pas tous mal parce qu'il n'y a pas besoin pour manger. Une autre récente étude américaine du Marine Mammal Research Program à l'université d'Hawaï ajoute encore que les baleines sont capables d'ajuster leur vitesse de mouvement et l'espace de leur émission de bulles pour que le filet soit le plus efficace possible et que les mailles se resserrent petit à petit.
Et donc, pour revenir à la baleine formatrice d'adultes, ces techniques se transmettent aussi entre adultes.
Oui, voilà, avec une meneuse, comme on l'a vu chez les baleines à bosse, mais aussi par mimétisme. On parlait tout à l'heure de formatrice d'adultes. Il ne faut pas s'imaginer une baleine avec un tableau noir, mais plutôt une capacité de chacun des éléments de regarder, de reproduire et de faire évoluer la méthode au fil des transmissions. Voilà de quoi faire rêver plus d'un enseignant.
Effectivement, et c'est assez génial. Hein. La nature, elle est quand même assez extraordinaire. On a régulièrement l'occasion de le constater ici dans CQFD. En l'occurrence, la culture et la manière dont on se la transmet chez les baleines, même entre les adultes. C'était Laurence Bolomet. Merci beaucoup, Laurence. On était dans le très, 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 très gros. Je parle pas de vous, hein. Je parle des baleines, évidemment.
Ouf.
Voilà. Et du coup, on va faire complètement l'inverse dans un instant, puisqu'on va faire une virée dans le monde du tout petit, Sarah Dirène.
Oui, alors je sais pas s'il y a des transmissions d'apprentissage chez les micro-organismes, peut-être, et on va plonger en effet dans les diverses collections de micro-organismes de la recherche fédérale en agronomie. Elles sont précieuses, c'est un trésor.
CQFD. Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Contact.
infusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale.
Avait écrit cette chanson pour Brigitte Bardot.
Gainsbourg,
évidemment,
non
oui, oui, absolument. Serge Gainsbourg, c'est une chanson sortie en 1981. Contact.
CQFD à réécouter sur rts.ch/CQFD.
Tiens, on va s'intéresser maintenant au monde des micro-organismes, ceux conservés à Agroscope. Agroscope, c'est-à-dire la recherche fédérale dédiée à l'agriculture. Ce sont, Sarah Dirène, des trésors de biodiversité conservés dans différents sites en Suisse.
Oui, alors plusieurs sites, hein, avec des collections dédiées, par exemple, plutôt des micro-organismes du sol du côté de la Suisse allemande, du côté de Changin, plutôt des champignons pathogènes. À Pauzieux, dans le canton de Fribourg, vous trouvez une toute jeune collection de micro-algues. Un projet est en cours hein, pour nourrir des cochons avec certaines de ces algues. Je parie qu'on va, on va y revenir. Hein. Oui, oui, il faut aller voir.
Un autre jour, c'est ça vous...
Oui, un autre jour. Oui, oui, on va aller voir les cochons qui mangent des algues. Alors, le microbiologiste Noam Chani est en charge, lui, de mettre en lumière justement ces trésors invisibles. C'est également lui qui veille sur la collection des souches de micro-organismes pour la production laitière. Plus de 15 1000 isolats sont conservés sur le site de Liebfeld, près de Berne. Une bonne partie de ces bactéries sont des bactéries starters qu'on ajoute en début de processus, mais vous avez aussi d'autres qui vont donner du goût au fromage, de la texture, de la maturation du fromage, etc. Et parmi ces bactéries, vous trouvez des Escherichia coli.
Aïe.
Oui, alors Escherichia coli, pas top, Noam Chani.
Ça dépend. Disons qu'on a toute une diversité de micro-organismes isolés du lait et du fromage, et on en trouve parfois, principalement dans le lait. Dans le fromage, ce serait pas bien. Voilà, on les a aussi découverts dans le lait et on les conserve ici.
Vous dites, dans le lait, c'est bien, mais pas dans le fromage. Lait et fromage, c'est pas pareil ?
Non, c'est pas pareil, parce que les bactéries qu'on trouve dans le lait, on ne les retrouvera pas forcément dans le fromage. Les starters, justement, sont responsables d'acidifier le lait très rapidement en début de production du fromage, ce qui empêche justement le développement de toutes sortes d'agents pathogènes ou potentiellement nuisibles dans le fromage. Donc des bactéries qu'on n'aimerait pas dans le fromage, comme Escherichia coli.
On va aller voir vos souches et vos mélanges.
Oui, volontiers.
Voilà, alors une salle avec des gros frigos, moins 80 degrés.
C'est ça, c'est les congélateurs dans lesquels on conserve nos 15 000 souches environ, c'est une approximation, 15 000 souches isolées de lait et de produits laitiers de toute la Suisse.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, ça a commencé au début du XXe siècle, donc c'est vraiment un patrimoine qu'on a ici. Il faut savoir que certaines des fromageries dans lesquelles on a isolé ces bactéries ont disparu et potentiellement les souches qu'utilisaient ces fromageries ont disparu avec elles. Et par chance, on les a isolées, donc il y a eu d'énormes campagnes d'isolement, principalement dans les années 70 et 80, dans toute la Suisse, dans les fromageries suisses, qui nous ont permis de conserver cette biodiversité et les fonctions, et ces fonctions, parce que chaque souche a des fonctions spécifiques. L'intérêt en fait de cette collection, c'est de conserver toute cette biodiversité. Alors ici on parle des produits laitiers, mais les autres collections d'Agroscope ont également la même importance, avec par exemple les bactéries ou les champignons du sol. C'est possible que dans un certain temps, avec le réchauffement climatique, avec l'utilisation de pesticides, que cette diversité change ou diminue. Et c'est donc extrêmement important de conserver ces micro-organismes. Et c'est un travail qui n'est pas forcément connu, c'est-à-dire ces collections, on en a justement plusieurs chez Agroscope. Certaines sont connues, comme celle-là. Il y a un intérêt direct, et du coup, la collection est connue. Mais il y en a d'autres qui sont moins connues, mais quand même tout aussi importantes, dans le sens où elles permettent de préserver cette diversité qu'on pourra utiliser à l'avenir, et sur laquelle on fait de la recherche actuellement pour diverses applications.
C'est un monde méconnu, mais méconnu non seulement du grand public, mais de vous-même.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que pour que ces micro-organismes, pour qu'on puisse les utiliser, que ce soit pour la recherche ou pour diverses applications, il faut qu'on les connaisse mieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les caractérise plus en détail. Et c'est tout un travail qu'on fait au niveau des différentes collections d'Agroscope pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles produisent, de quoi elles sont capables. Parce que c'est une chose d'avoir une bactérie, si on ne sait pas ce qu'elle fait, c'est pas très utile.
En effet, d'où l'importance de caractériser toutes les souches de ces collections, quelle que soit la collection. Hein. Il y a la collection des algues, celle des micro-champignons, celle des micro-organismes du sol. Il y a probablement des trésors cachés là-dedans.
Ah, ma main coupée. Hein. Je vais vous donner un exemple, Stéphane. Dans la collection de micro-organismes que bichonne Noam Chani pour produire donc de bons fromages, eh bien, vous avez des bactériophages, des virus mangeurs de bactéries. On vous a déjà parlé ici hein, de phagothérapie, puisque ces bactériophages sont une alternative pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. On est donc là dans un domaine médical, hein. Mais pourquoi donc conserver et quel rôle jouent ces bactériophages dans la production fromagère ? On écoute Noam Chani.
Dans la recherche fromagère, ils sont extrêmement importants parce qu'à l'inverse, ils sont indésirables. C'est-à-dire qu'un fromager qui a des bactériophages, ça peut lui détruire une production. Donc des milliers et des milliers de litres de lait qui partent à la poubelle, si on veut, ou à l'égout, parce qu'il a été infecté par des bactériophages. Et la raison, c'est que ces bactériophages peuvent éventuellement s'en prendre aux bactéries starters qui sont responsables de l'acidification du lait en début de production fromagère. Ils peuvent s'en prendre à ces bactéries-là, ils peuvent s'en prendre aux bactéries responsables des arômes, etc. Donc on ne les veut pas dans les fromageries en général.
Oui, mais tout est à jeter chez les bactériophages ?
Non, surtout pas, non. C'est des acteurs clés dans les écosystèmes. Ils jouent un rôle très important dans la régulation des populations. C'est un peu comme un prédateur. Si vous avez beaucoup de chevreuils, le loup va jouer son rôle en mangeant quelques-uns. C'est la même chose pour les bactéries. S'il n'y avait pas de bactériophages, les bactéries se reproduiraient à l'infini et ça n'irait pas.
Et c'est pour ça qu'elles sont dans vos collections. Une collection quand même qui a plus de 100 ans.
Alors la raison pour laquelle elles sont dans notre collection, c'est plus pour les étudier, parce que quand on produit des cultures fromagères, c'est-à-dire quand on étudie nos bactéries lactiques, on aimerait qu'elles soient le plus résistantes possible à ces phages. Et surtout les mélanges qu'on produit et qu'on vend aux fromagers, on aimerait que ces mélanges soient résilients, si on veut, qu'ils soient robustes, pas que des bactériophages les attaquent après 2 mois, par exemple. Et donc la recherche qu'on fait, on essaye de comprendre à quel point les souches qu'on met à disposition de la recherche et du développement de cultures sont résistantes à ces phages et à quelles phages elles sont résistantes pour pouvoir faire les meilleurs mélanges possibles.
Mais c'est d'une technicité incroyable, un fromage.
Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, oui, c'est vrai.
Ces phages sont évidemment délétères, enfin il en faut, mais pas trop pour le fromage. C'est pour ça qu'ici on est vraiment dans un laboratoire séparé des autres laboratoires. Il faut vraiment pas qu'il y ait de contamination.
Absolument. Donc ces phages qui s'attaquent à nos bactéries lactiques, on n'aimerait surtout pas qu'ils nous les infectent. Parce que le pire qui pourrait arriver, ce serait que notre collection soit attaquée par des phages. Et donc, il faut des mesures strictes pour les tenir séparés de la collection de bactéries lactiques. Et c'est pour ça qu'on a ce petit laboratoire ici avec des mesures strictes pour éviter que les phages ne sortent d'ici.
Et toutes les caractérisations que vous allez faire ici spécifiquement sur les phages sont importantes, enfin pour la connaissance, pour vos bactéries lactiques, mais peut-être aussi pour la médecine.
Tout à fait, et c'est pour ça que c'est très important que toutes les informations qu'on a, que ce soit sur les phages, mais aussi sur les autres micro-organismes, soient mises à disposition dans des bases de données. Et je dirais que c'est aussi très important que les différentes collections avec les différentes bases de données communiquent entre elles. Il y a peut-être une collection sur un autre site d'Agroscope qui a des bactéries lactiques ou des phages qui pourraient m'être utiles. Ou alors peut-être qu'une collection à Changin pourrait utiliser mes phages pour une application quelconque. Donc il y a vraiment une volonté actuellement de rendre ces collections plus visibles à l'interne, de les mettre en réseau, et peut-être aussi de les rendre un peu plus visibles à l'externe pour favoriser les collaborations avec d'autres groupes de recherche en dehors d'Agroscope.
Un travail de longue haleine qui servira à l'ensemble du monde scientifique. C'était le microbiologiste Noam Chani. Il est en charge de valoriser les collections de micro-organismes à Agroscope et il est responsable sur le site de Liebefeld des 15 000 isolats pour la production fromagère. Est-ce qu'on a tout dit, Sarah Diren?
Tout, que le fromage, sans bactéries, sans micro-organismes, pas de fromage.
On ne mangera plus jamais du fromage de la même manière grâce à vous. Merci beaucoup Sarah. À suivre dans CQFD, la géologie au service de l'enquête, Cécile Guérin.
Oui, dans ce livre de Patrick de Wever, 94 enquêtes sont élucidées, dont certaines avec des techniques utilisées en géochimie et géophysique.
I found my old phone today in a box that I had hidden away. Nostalgia trying to lead me astray. Maybe I'll unright some wrong. I charge the battery again. Combinations, cause my passcode had changed. Opened up and saw familiar names. Now I wonder where they've gone. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness before the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. I found my old phone today. Arguments that I tried to keep at bay. The ones who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My close hands still hold some mates. But if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain. Trying to keep within my remit. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left. They're in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness. So full of love, yet so full of hate. I put it back inside there from whence it came. Nothing good will come from regretting. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left. They're in the
past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured, growing up and moving on. I found my old phone today.
Old Phone, c'est une nouvelle chanson signée Ed Sheeran qui annonce la sortie d'un album, un nouvel album prévu en septembre prochain. Si Sherlock Holmes revenait parmi nous, il n'en reviendrait pas des techniques archi-perfectionnées que nous connaissons aujourd'hui pour mener des enquêtes. Parmi les sciences utilisées en criminologie, on met l'accent sur la géologie, cette science des cailloux, Cécile Guérin.
Oui, une science qui utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour faire parler les roches. Et c'est Patrick de Wever, géologue et passionné de chaque caillou ayant une histoire à raconter, qui est notre guide dans cette aventure. Il publie La géologie au service de l'enquête avec la collaboration d'un expert de criminalistique, Richard Marley.
Patrick de Wever qui est avec nous dans CQFD, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a le microscope qu'on connaît bien, utilisé au début du XXe siècle pour comparer des grains de sable et confondre un coupable. Et puis, il y a des techniques beaucoup plus récentes, techniques géochimiques ou géophysiques, voilà, c'est des techniques actuelles qui se sont alors largement perfectionnées, on l'imagine.
Oui, les techniques se sont perfectionnées, mais de ce fait-là, les connaissances aussi, parce que la science est liée un peu à la technologie aussi. La science permet d'améliorer la technologie, mais la technologie permet d'améliorer les connaissances.
Et les analyses géochimiques, si on prend cet exemple-là, elles sont très utiles, par exemple, pour authentifier le matériau de certaines statues et confondre des faussaires. Par exemple, si on souhaite authentifier des bijoux en ivoire, que peut-on utiliser comme méthode ?
Plusieurs techniques, mais celle qui semble un peu le plus efficace, c'est ce qu'on appelle la sonde Raman. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de ce qu'est la sonde Raman. Il faut dire simplement, on lui envoie un type de rayon, je vais dire très simplement, et la matière réagit d'une façon différente, que ce soit avec de la lumière, ou que ce soit avec des ondes, que ce soit avec des corpuscules. On analyse ensuite ces éléments, et en fonction de l'objet, on arrive à discriminer la matière, parce que la matière réagit, mais justement, chaque matière réagit de façon un petit peu différente. Et donc, la sonde Raman, ce qu'il y a de merveilleux avec cet appareil, c'est que ça peut être gros comme, je vais exagérer, un sèche-cheveux, et on ne touche pas à la matière. C'est pour ça que c'est très utilisé pour les statues ou pour le patrimoine, parce que si vous savez l'utiliser, vous allez dans un musée, ça m'est arrivé à Versailles, sur les colonnes ou sur les statues, on mettait la sonde Raman et on connaissait la composition du matériau.
Et là, sur l'ivoire, par exemple, on peut savoir si c'est du vrai ivoire, on va dire, ou si c'est un plastique.
Oui, alors pas seulement si c'est du vrai ivoire, mais si c'est de l'ivoire de l'éléphant, ou si c'est de l'ivoire de phoque, si c'est de l'ivoire de mammouth, etc. Donc vous voyez, c'est pas seulement est-ce de l'ivoire, mais quel type d'ivoire, puisqu'il mais forcément, il y a une petite composition un peu différente, donc ça réagit différemment.
Vous-même, Patrick de Wever, je crois que vous avez été sollicité par les douanes pour authentifier des marbres de Chine. Racontez-nous.
Alors, c'était les douanes de, je crois que c'était Le Havre, qui un coup de fil, ils disent, voilà, on a une cargaison de je sais plus combien de milliers de tonnes de cailloux, c'est du marbre, mais on se demande si c'est vraiment du marbre. Donc, ils me l'ont envoyé. À la réception, c'est quelque chose qui ressemble à du marbre, un marbre parfaitement blanc, qui semblait dur. Et j'ai pris un petit fragment d'abord pour essayer d'en faire une... Vous savez, on fait des plaques minces de 0,3 mm. C'est la technique... Enfin, l'épaisseur est classique pour toutes les analyses que l'on fait sous le microscope optique. Mm-hmm. Et en essayant de faire ça, le marbre est parti, j'allais dire en sucette, non, il est parti en petits cristaux. Vous savez, comme de temps en temps, on a du sucre cristallisé qui est un peu compact. Si on y touche un peu, plut, il s'effondre en poussière. Donc ça m'a intrigué, mais néanmoins... On a fait les analyses, on a analysé avec les rayons X. Ça permet de dire quel type de cristal. Un rayon X donne une structure cristalline. On l'a analysé du point de vue chimique. C'était bien du carbonate de calcium. Donc la chimie correspondait. La structure cristalline correspondait. Donc c'est parfaitement la définition du marbre. Le marbre des géologues. Parce que il y a le marbre des marbriers qui pour eux, le but étant différent, ils ont une définition différente.
D'accord.
Le marbre du marbrier, c'est toute roche qui, une fois polie, ne montre pas de grains. Si la roche montre des grains, ils appellent ça un granit. Bref, là, c'était donc le marbre des géologues, sauf que il n'avait pas la structure. Donc, ben, moi, j'ai donné l'information en disant, il a la chimie, il a la structure cristalline, mais il n'a pas la résistance. Mais néanmoins, ça s'appelle art marbre. Maintenant, pour construire, ne pas utiliser. Si c'est pour une déco, peut-être. La suite, je ne l'ai pas su, parce que ça ne me regarde pas.
Et pour les statues, justement, de marbre antique, hein, dans les musées, il y a des analyses et, qui sont nécessaires pour authentifier, par exemple, une tête en marbre et identifier son auteur, savoir si c'est, ce marbre vient de telle ou telle région. On fait beaucoup, beaucoup d'analyses, en fait.
Là aussi, ça nous est arrivé dans le laboratoire où j'étais. C'était les musées Getty avaient une œuvre et ils avaient des doutes dessus. Ils nous ont demandé d'analyser quel type de marbre c'était le Scopus, le sculpteur. Et donc, Scopus, son marbre, il le faisait venir de Doliana. Donc, le marbre de Doliana a été analysé. Celui-là a été analysé par une autre technique. Là, c'était la thermoluminescence et fluorescence. Donc, c'était... C'est un peu compliqué, ça donne des petites lumières différentes, c'est très compliqué, mais il y avait toutes les caractéristiques du marbre de Paros, mais pas le marbre de Doliana. Donc, ça veut dire que ben, c'était déjà pas la même source, ce qui est étrange, et ensuite on a les salissures qui étaient sur l'altération qui est sur le marbre qui a été analysé, et on s'est aperçu que c'était pas le même type de salissure que les vraies sculptures, donc voilà, c'était un faux.
Parfois, il arrive que le géologue soit le faussaire. Histoire, l'un d'eux rapporte de Chine des échantillons de roches qui contiennent du pétrole et il cherche un investisseur pour exploiter ce pétrole. Or, que raconte l'analyse au rayon X ?
Alors, avant d'avoir... Voilà. Il a cherché des investisseurs et l'un d'eux, suspicieux, a fait une analyse, d'abord aux UV, hein, parce que le pétrole réagit à la lumière. Alors ça, c'est très simple. Et ça se colorait. Donc, effectivement, il y a de l'huile là-dedans. Et puis... Il l'a regardé de plus près avec un microscope un peu spécial et même en trois dimensions, ce qu'on appelle le CT scan. Enfin bref, c'est une technique. Et il a vu que dans les gouttes, dans les zones où il y avait de l'huile, il y avait des petits ronds. Les petits ronds, c'était des trous. Et ils ont fait analyser les trous, ils ont regardé encore plus près, et les trous, c'était des petits cylindres. Ce qui est un peu surprenant pour une roche naturelle. Donc une analyse plus complète a été faite et ils se sont perçus en fait qu'il y avait plein de petits trous, mais vraiment minuscules, infra-millimétriques. C'est des petits trous qui avaient été remplis de pétrole avec une huile, avec une seringue.
Tout ça pour
bref,
faire croire.
Bref, le faussaire a été pris.
Oui, le géologue était le faussaire. Il y a une autre analyse également qui est faite avec un géoradar, une autre technique qui a permis de découvrir que dans des plaques de granit, eh bien, il y avait de la cocaïne. C'est pas banal, ça.
Oui, alors c'était du marbre qui changeait de continent. Et puis un jour, un bloc de marbre, normalement, vous savez, c'est comme quand on transporte des conteneurs, c'est des grosses grues, etc., il y a un accident, le bloc tombe, et en tombant, il se casse, et il fait de la poussière. Et ils ont dit, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de poussière. Il y a de la poussière, mais là, ils disent, autant de poussière, qu'est-ce que c'est ? Donc, ils ont regardé cette poussière, et c'était de la cocaïne. Et alors qu'ils ont regardé ce bloc de plus près, et ils ont vu que le bloc était perforé de tout petits trous, alors pas aussi petits que dans le cas précédent, hein, c'était des trous de 2-3 cm, qui étaient bourrés de cocaïne, et le sommet des trous était rebouché avec le même marbre. Et pour que ça se voit vraiment pas, bien sûr, ils avaient un peu attaqué la surface, un peu sali l'ensemble, bref, de l'extérieur ça ne se voyait pas. Donc ils ont pensé à regarder ça aux rayons X, parce que normalement ça se voit aux rayons X, mais c'était des dalles de marbre tellement épaisses que ce n'était pas efficace aux rayons X. Et là, ils ont recouru à une méthode beaucoup plus facile, plus ancienne, au poids. Ils ont dit, s'il y a des trous, il y a moins de cailloux, parce que la coque, c'est quand même pas aussi lourd. Et donc, ils ont, comme ça, isolé les blocs qui étaient anormalement légers. Et ils ont repéré, bref. Mais ce qui leur a fait un peu peur, c'est qu'ils se sont aperçus que là où ça se faisait, il y avait d'autres types de cailloux qui avaient été percés, qui étaient encore sur place. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existait depuis longtemps.
La géoscience, qui est couramment utilisée par l'armée également, vous citez cet exemple célèbre quand un géologue américain a reconnu la grotte où se trouvait Ben Laden en repérant la roche lors d'un enregistrement vidéo.
Oui, alors, c'est un géologue, en l'occurrence, c'est plutôt le naturaliste qui a été efficace. Parce que les géologues vont un peu partout, c'est leur travail, et ce monsieur avait travaillé en Afghanistan. Et quand on travaille sur le terrain, ben forcément, on prend l'habitude de voir des paysages, on prend l'habitude de les connaître. Et donc, on peut les reconnaître. Et tout ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il a reconnu une grotte qui était dans un endroit que lui connaissait. Donc, plus que la pétrographie, c'est le lieu qu'il a reconnu. Donc là, c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'il est géologue. Mmh. Il est géologue, donc il est allé là, mais c'est l'aspect naturaliste qui a été efficace.
Parmi des méthodes, on parle des méthodes de géophysique, il y a la sismologie, justement, pour savoir d'où vient un tremblement de terre, etc. Et alors là, en août 2000, les ondes sismiques qui ont détecté les premières des explosions qui avaient entraîné le naufrage du sous-marin russe Kursk. C'est une méthode, finalement, qui n'est pas du tout utilisée pour ça. Et puis là, elle a permis de dire, avant même qu'on ait les informations, il s'est passé quelque chose sous la mer.
Oui, il y a des enregistrements sismiques sans arrêt partout dans le monde, pas répartis partout de la même façon, mais toujours c'est enregistré. Et là, il y a au moins deux centres sismiques qui ont enregistré des ondes sismiques. C'est dû à quoi? Ils ne savaient pas bien, mais comme c'était deux lieux différents, par triangulation, ils ont dit, il s'est passé quelque chose, secousse sismique, ou explosion volcanique, ou. Et puis là, les Russes annoncent qu'ils ont perdu un sous-marin, mais que c'était qu'une petite panne, etc. Et je dis, c'est bizarre pour une petite panne que nous, on a enregistré des secousses sismiques. Et en fonction de l'intensité des secousses sismiques, ils arrivent à déterminer l'énergie initiale. Et donc, ils pouvaient dire, oui, c'est vraiment, il y a eu une explosion et c'était grave, alors que les Russes continuaient de dire qu'il n'y avait rien du tout.
On entend toutes ces méthodes géophysiques, géochimiques, il y a également des radars particuliers, des lidars pour pouvoir voir, en fait, s'affranchir de la couverture végétale et identifier d'éventuelles structures au sol. Ça a permis notamment des découvertes en archéologie et ces techniques. Elles permettent aussi, par exemple, de retrouver des corps, des traces de terre retournées, des sépultures.
Oui, alors l'avantage du LIDAR par rapport au géoradar classique, un radar envoie des ondes qui sont arrêtées, et donc une partie réfléchie, par exemple par les feuilles des arbres. Mais le LIDAR, c'est la même chose, mais sauf que les ondes envoyées, ce sont des lasers. Donc ce sont des faisceaux extrêmement fins. Toujours est-il que l'intérêt, c'est que ça va jusqu'au sol. Et donc ça permet de mesurer le relief du sol, mais à quelques millimètres près, une précision. Donc, par exemple, une terre qui a été retournée pour enterrer quelqu'un, même si c'est dans un bois, on arrive à mesurer, à voir le relief, et donc ça permet de retrouver des sépultures. Ça fut utilisé pour, le nom m'échappe, une dame qui a été assassinée, une infirmière dans le sud de la France, et dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Ils avaient utilisé ce LIDAR pour rechercher des traces de tombes éventuelles.
Et vous terminez votre livre qui raconte 94 cas donc par l'histoire des pyramides égyptiennes où dernièrement, une pièce cachée à l'intérieur de la pyramide de Khéops a été révélée grâce à la radiographie par muon. Là, on est vraiment dans du très très high-tech, Patrick de Wever.
Oui, forcément, vous savez ce que sont les muons, j'en suis sûr.
Des particules élémentaires, mon cher Watson.
Voilà, ce sont des particules élémentaires, effectivement. Comme il y a les neutrinos, comme il y a les électrons, etc. Certaines d'entre elles, ce sont des muons. Alors, on reçoit tous des muons chez soi, mais on est traversé de muons, on le sent pas. Mais néanmoins, il y a quand même une petite réaction, parce qu'on en bloque quelques-uns quand même, infinitésial, mais on en bloque. Et ces muons viennent de l'espace. Donc ils ont enregistré les muons, enfin la quantité de muons qui passaient ou qui passaient moins bien suivant les endroits dans la pyramide. Mais c'est une expérience qui se passe sur des mois. Ce sont des enregistrements qui durent des mois. Et donc on a ainsi pu retrouver une cavité dans la pyramide de Khéops. De même qu'en Italie, il y a eu des travaux en ville. Ils ont vu qu'il y avait des restes archéologiques. Ils ne pouvaient pas détruire le quartier pour faire les fouilles. Et donc ils ont utilisé la muographie pour retrouver plusieurs pièces sur plusieurs niveaux.
Merci beaucoup Patrick de Wever, c'est passionnant. Je rappelle que vous êtes géologue, co-auteur de l'ouvrage La géologie au service de l'enquête aux éditions Belin.
Infotrafic RTS.
Suite à la panne d'un véhicule dans le tunnel du Mont-Russelin, l'autoroute Boncourt-Delémont est fermée entre Saint-Ursanne et Glovelier. En direction de Delémont, une déviation est signalée. Merci d'être passé par CQFD en ce mercredi matin. Demain, dès 10h, on va longuement s'intéresser à un médicament qui fait fureur pour perdre du poids. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'appelle l'Ozempic.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 5h.